Huit semences, une goguette. Dans le quartier de Montrouge Plaisance, une triste rue s'étend, qui naît près d'un passage à niveau de chemin de fer, à côté des ateliers à machines de la gare de l'Ouest, prend en écharpe la chaussée du Maine et s'arrête enfin non loin de l'extraordinaire Valgrados, rue de la Gaîté. De cette rue, un marchand de vin ouvre sur un trottoir une boutique barbouillée de chocolat et rechampie de filets jaunes sereins. Ce n'est pas le marchand de vin moderne, avec ses dorures, ses glaces, son immense comptoir d'étain, surmonté à chaque bout de mousquetaires ou de mignons en simili-bronze, qui surveille, l'épée ou le drapeau en main, le filet d'eau en train de chanter dans la piscine où baignent des vers. Ce n'est même pas le marchand de vin des quartiers populeux, avec ses barreaux rouges et ses raisins en tôle bleue au-dessus de la porte, mais c'est le vulgaire mastroquet des anciens temps. C'est la boutique nue, sans cabinet séparé par des cloisons découpées à hauteur d'homme. Une salle humide comme une cave, sans papier collé au mur, sans sable jaune qui boive au moins le liquide rejeté par les buveurs, 6 tabourets, 2 tables de bois et dans un coin, un petit comptoir au milieu duquel trône, coupé au ventre, un buste d'homme versant les manches retrouvées jusqu'au coude sur des bras poilus, des brocs de vin qui moussent en gloussant dans le verre subitement violet des litres. 8 heures du soir sonnent à peine, la salle est presque vide. Un chat roulé en boule sur une table se lève, s'étire, fait le dos de chameau et va flairer une vieille femme qui dévore, silencieuse, du fromage d'Italie dans un papier. On traverse la pièce, on pousse une porte et l'on descend 5 marches. La goguette est là, dans une cour. 4 murailles se dressent, 4 derrières de maisons trouées de lucarnes. Une lumière paraît de temps à autre au travers des grilles qui les garnissent, puis s'en va. On ne paraît pas séjourner longtemps dans chacune de ces pièces. En bas, dans la cour, l'obscurité est à peu près complète. Une lampe à schiste éclaire seule en fumant les murs. Cependant, les yeux s'habituent à l'ombre et alors, confusément, l'on distingue des arbres plantés dans des barriques, des pins et des lauriers roses, des tables, du gravier qui crie sous les pas, et tout au fond une tonnelle qui abrite un grouillement de foule. La cour fourmille d'ailleurs de gens. Les tables sont encombrées. C'est à peine si près d'un enfant qui me tambourine aussitôt les oreilles bambes avec ses pieds, j'ai pu parvenir à trouver place. Un garçon arrive et demande ce que l'on veut boire. Les consommations sont peu variées. Tout le monde réclame un saladier et bientôt l'on entend au-dessus des voix le bruit du sucre qu'on écrase à coups de cuillère dans un peu d'eau, puis le dégoulinage des litres qui tombent en cascade dans la faïence. Un second quinquet s'allume à l'autre bout de la cour et alors apparaît une petite estrade et le profil de l'homme orchestre assis sur une chaise sans dossier, une grosse caisse dans le dos, cymbale par-dessus, un immense biniou dégonflé entre les bras. 2 autres figures coiffées de chapeaux pointus, des modèles italiens avec des dents de loup, s'installent sur des tabourets et ils lèchent aussitôt pour la lubrifier la bouche de leur flageolet.
Silence ! Crie une voix enrouée.
Et l'homme orchestre se lève, souffle dans son instrument qui s'emplit comme un ballon et jappe tel un chien, tandis que la maillotche tape sur la caisse et que les cymbales claquent. Il joue ma mandolinata avec calme d'abord, puis, sans qu'on sache pourquoi, il presse le mouvement, accélère les borborygmes de biniou, suivi dans cette hâte fébrile par ses comparses, qui suce plus avidement le bec des flageolets qui crient dans la nuit et vous entre dans l'oreille comme une pointe.
Satisfait, l'homme orchestre remue ses yeux qui rient et s'assied.
Un ouvrier se lève d'une table.
« Mais c'est Jules,
tu vois ?
Mais oh, j'en suis sûr !»
Et des pleurs d'enfants, accompagnés par l'aboiement d'un terrier, coupent cette conversation échangée par des gens qu'on ne voit pas.
« Hé, garçon de la flotte !» hurle en traînant une voix canaille,
tandis que le garçon apporte une carafe d'eau. Puis le silence se rétablit.
« Vas-y, négociant !» crie une femme à un ouvrier qui s'achemine vers l'estrade.
« À la commode !» glapit un autre. Le patron apparut en haut de l'escalier conduisant dans la cour. Il tient tout le cadre de la porte avec ses épaules et croise la mignerogue de formidables bras. Personne ne dit plus mot. L'ouvrier est monté sur l'estrade, se dandine, un peu renversé en arrière, et il commence, sans accompagnement de musique, d'une voix profonde creusée par le 3-6.
« Salut, ô héros de Vincennes, à Doménil, au bon français !»
Ces accents héroïques, religieusement écoutés, enthousiasment les buveurs. Quelques-uns déjà très saouls, s'agitent et un maçon plus ivre encore se lève, se retenant d'une main à la table, dressant l'autre en l'air, et il braille à tue-tête avec le chanteur.
« De lui que tout Français l'apprenne, le drapeau ne se rend jamais !»
Sa femme se pend après lui et le fait asseoir.
« Ben, j'ai payé ma tournée, j'ai le droit de chanter » crie-t-il.
« Voyons, mon vieux, voyons.
Il n'y a pas de bon vieux qui tienne. J'ai-t-il payé, oui, mais alors je suis le maître. »
L'homme orchestre se relève, ressouffle dans son biniou la mandolinata que vinaigre furieusement les flageolets des hommes au chapeau pointu. Il se rassied, et cette fois, deux ouvriers escaladent l'estrade. Comme ils ne peuvent, faute de la place nécessaire pour exécuter les gestes, se tenir en face du public, ils se présentent de profil, bec contre bec, haleinant droit l'un sur l'autre, penchés en avant, prêts à se cogner le front comme chez Guignol. Ils entament, sans musique toujours, un duo polisson qui secoue la foule. Des salves d'applaudissements partent. La cour entière vocifère des bis. Ils dégoissent alors un nouveau couplet où, par une facile divination de la bêtise humaine, le chansonnier a ajouté au malheur d'une belle-mère les infortunes d'une jeune fille qui avoue naïvement sa faute. Le triomphe est retentissant et se prolonge jusqu'à ce que les chanteurs soient descendus et regagné leur place. Depuis 10 minutes déjà, d'étranges bruits me parviennent dans l'obscurité. J'entrevois de vagues enlacements et je perçois des rires énervés de femmes que l'on brasse. Je tourne la tête et à la lueur d'une allumette qui brûle une pipe, je regarde au fond de la tonnelle, en un rapide éclair, des couples échauffés près de litres vides, dominés comme dans une apothéose par une énorme fille en cheveux, debout le corsage dégrafé, dans lequel un mécanicien plonge en ricanant une grosse patte noire. L'allumette est éteinte et le bosquet est retombé dans l'ombre. La bière à laquelle je goûte m'épouvante. Une hurlée de Marseillaise m'étourdit en même temps qu'une odeur déviée mes cœurs. Allons, il est temps de partir. Aussi bien les Alphonse rappliquent de toutes parts, et une fois sortis, je les rencontre encore qui rôdent en bande dans la rue, tandis qu'une effrontée ribambelle des filles lâchées des maisons voisines les rejoignent, et bras dessus, s'enfoncent dans d'obscurs couloirs d'hôtels louches, dont les portes à claire-voie sonnent lugubrement dans la rue noire.